9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Demain donc, à Rennes, les Bleus joueront leur dernier match du groupe A contre le Nigeria, avec déjà en poche une qualification pour les huitièmes de finale. Des Bleus EUES. Et ce qu'on veut d'abord souligner ici, avant ces premiers succès sportifs, c'est l'avènement d'un nouveau sport populaire. Ce n'est pas tous les jours. Près de 11 millions de téléspectateurs pour les deux premiers matchs, avec des hommes devant leur télé, des jeunes et des très jeunes, 59% de part d'audience chez les moins de 14 ans. Bonjour Mélissa Plaza.
Bonjour.
Ex-internationale et docteur en psychologie sociale. D'abord, est-ce que ces chiffres et cet engouement vous ont fait plaisir ?
Oui, nécessairement. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on attend cette reconnaissance et moi, maintenant que je suis sortie du milieu, je suis très contente pour elle et je m'en réjouis. J'espère que ça va durer et que ce ne sera pas juste un feu de paille.
Face à vous, le chef du service des sports d'Europe 1, bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Patrick.
Vous l'avez vu venir, ce succès ?
Oui, mais pas à ce point. On imaginait des audiences pour l'équipe de France féminine aux alentours de 5 à 6 millions de téléspectateurs. Quand on a vu le chiffre de 10, c'était quand même la fourchette très très haute. Maintenant, on sentait bien qu'un mouvement était en train de s'initier, qu'il y avait une vraie demande de la part des amateurs de sport en France de s'intéresser à autre chose, un autre type de football, quelque chose peut-être de plus sain, de plus simple aussi. Et puis on a des personnalités formidables dans cette équipe, donc tout était réuni pour que ça prenne. La billetterie a très bien marché aussi. Voilà. Mais à ce point-là, non.
Mélissa Plaza, est-ce que ce n'est pas d'abord peut-être une question d'exposition, puisqu'avant TF1, aucune grande chaîne n'avait programmé du football au féminin en première partie de soirée. C'est le pari gagnant de TF1 ?
Bah oui, je crois que c'est évident. Je pense que c'est comme quand Apple sort une nouvelle montre ou un nouvel iPhone, on crée un besoin. Et quand on attend, quand on attend de médiatiser pour donner envie aux gens de regarder, je pense que c'est le bon chemin en fait. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les gens nous disent on a envie, il faut plutôt leur proposer autre chose et ça nous réussit.
Des millions de jeunes pour applaudir les Bleus et pour l'instant seulement 138 000 licenciés en France. Il y aura forcément des vocations, un afflux ?
C'est 160 000, je crois, le chiffre, non ?
Moi, j'ai 130. De toute façon, ça progresse de jour en jour,
ouais,
pour être
ça.
Tout à fait franc.
Bon, moi, j'avais 138 000, donc
et
on est au-delà.
Il y a eu plus 15% depuis 2018,
ouais.
D'une manière générale, pour le foot joué par les filles. Et c'est un chiffre qui, de toute façon, est condamné à s'accroître avec les problèmes qu'on risque de rencontrer, les problèmes de riches qu'on risque de rencontrer, parce que l'afflux de jeunes filles, notamment sur les terrains de foot, va poser des problèmes de disponibilité des terrains et d'éducateurs aussi, ou d'éducatrices à leur disposition.
Ça veut dire que les garçons devront faire un peu de place, ce qui n'est pas pour vous déplaire, Mélissa Plaza, mais ça va être compliqué dans certains clubs.
Bah, je crois que ce serait assez logique que certains garçons laissent la passe. Moi, je ne vois pas ça du tout comme un problème. Je préfère considérer ça comme une nouveauté et comme quelque chose de vraiment bienvenu. Donc, effectivement, il va falloir mettre des moyens et des moyens efficaces parce que pour l'instant, on a aussi beaucoup de personnes qui sont bénévoles. Donc, certes, c'est très bien d'avoir des bénévoles, mais qui ne sont pas toujours formés. Donc, il va falloir non seulement accueillir ces petites filles dans de bonnes conditions, mais aussi les fidéliser par des conditions décentes. Donc, ça veut dire des vestiaires qui ne sont pas ceux des arbitres, des vestiaires capables de les accueillir, des équipements à leur taille et tout ça. Donc il y a encore, je pense, du travail à faire dans les clubs.
Vous avez joué, vous, dans le plus grand club de foot au féminin, Lyon, l'Olympique Lyonnais, en l'occurrence, Mélissa Plaza. Et il y a encore il y a de la place pour accueillir des jeunes filles
Oui, bien sûr, qui ont envie
de jouer au foot.
Il y a de la place et puis ils sont en attente de ça. Moi, j'ai vu l'évolution quand je suis arrivée à l'Olympique Lyonnais, on n'avait même pas de vestiaire à nous. Aujourd'hui, les femmes ont des vestiaires en dur dans le stade, dans le grand stade. Donc, il y a une vraie évolution et j'ose espérer que ce soit un bel exemple à suivre et que d'autres clubs s'y mettent, même si pour l'instant, c'est quand même encore très difficile.
Mélissa Plaza, footballeuse, vous racontez vos combats, votre émancipation par le foot dans un livre Pas pour les filles, avec Jean-François Pérez d'Europe 1. On vous retrouve après une courte pause.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Mélissa Plaza et Jean-François Pérez pour parler du début de parcours des Bleus au Mondial français, de l'engouement populaire et du football. Comment devrait-on dire, Mélissa Plaza ? Du football au féminin.
Pratiqué par les femmes.
pratiquée par les femmes. Pourquoi vous tenez à ça et pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise foot féminin ?
Non, parce qu'on ne dit jamais football masculin, on ne mentionne jamais danse féminine ou danse masculine, ni athlétisme féminin ou athlétisme masculin, et que, en fait, quand on fait ça, on en vient à considérer que le football, c'est avant tout quelque chose de masculin. Donc, et puis, c'est aussi nous rappeler ces injonctions incessantes à la féminité, qui sont notre droit d'entrée dans ce milieu et qui sont aussi notre code-part à la médiatisation. Donc, je pense que c'est important. Le langage, ça induit pas seulement une réalité, ça la crée. Donc, c'est très important de dire football pratiqué par les femmes.
Alors, c'est très volontariste ce que vous dites, Mélissa Plata, mais vous êtes en quelque sorte la preuve de cette volonté-là, parce que personne ne vous a forcé à faire du foot. C'était une vocation. Toute petite, vous aviez un ballon dans les pieds.
Oui, ça a été une vocation, et plus qu'une vocation, ça a surtout été une passion salvatrice, parce que je me suis émancipée à double titre par le foot, donc sortie d'un contexte familial très compliqué, et puis émancipée socialement, parce que je viens d'un milieu social assez défavorisé, et puis ensuite émancipée en tant que femme, puisque, enfin, d'abord en tant que fille, puis en tant que femme, puisque je me suis affranchie des codes de la féminité pour devenir précisément la femme que je rêvais d'être, donc ouais, je suis très contente.
Les garçons, quand vous étiez enfant, voulaient bien jouer avec vous ?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai comme tout le monde, comme toutes mes collègues, essuyé d'abord l'exclusion et puis ensuite j'ai été intégrée dernière dans les équipes ou alors collée dans les buts parce qu'ils n'avaient pas de gardien et puis jusqu'à ce que je fasse mes preuves et que voilà, je sois désignée capitaine d'équipe. Bon, ils ont été assez pragmatiques à terme. Hein. Ils ont compris que si vous voulez gagner, il valait mieux m'avoir dans leur équipe, mais ça a pris du temps.
Et ensuite, vous avez grandi en rêvant. En regardant jouer des footballeurs hommes ?
Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas d'autres modèles à voir que des hommes, donc je me suis projetée dans un métier qui n'était pas décliné au féminin à l'époque. C'est ça qui est assez dingue, mais mes modèles, c'était effectivement, comme tout le monde, Zizou, hein, mais on est en milieu axial en plus. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais eu sur les posters de ma chambre des filles comme Dickenman, Abili ou
Sagui. Louisa Nessib à l'époque.
Mais pas du tout. Pas du tout. En 90, Louisa, elle est.
Alors, je ne dis pas en 90, mais dans les années 2000, on a commencé quand même à avoir les premières footballeuses
célèbres. Alors, Louisa a commencé
célèbres,
très tard. Elle a commencé à 14 ans, Louisa, le foot. Donc, c'est vous dire qu'à cette époque-là, la première footballeuse dont j'ai entendu parler, c'était Marinette Pichon qui a traversé la
C'était la Jean-Pierre Papin, au féminin, à l'époque.
C'est ça.
Comme Louisa Nessib était la Zidanette, elle était surnommée comme ça à l'époque.
Jean-François Pérez, votre regard d'amateur et de commentateur de foot, c'est différent ? Un peu différent, très différent le football joué par des femmes.
C'est à la fois très différent et extrêmement similaire. Moi, je ne serais pas aussi vindicatif quand on dit foot féminin, parce que pour moi, c'est tout sauf péjoratif. C'est-à-dire que le foot masculin est devenu tellement caricatural dans son économie, dans sa mentalité, dans sa façon de se présenter au monde, que quand on dit foot féminin, on s'extrait un petit peu de tout ça pour revenir à quelque chose de plus originel, de plus calme, de plus sain.
Simple.
Je disais tout
et
à
simple.
L'heure. Exactement. Et quand je commente un match de foot féminin, comme ça, mais de foot joué par des femmes, pour me faire plaisir, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je trouve que c'est évidemment le même jeu, mais avec un respect de la règle et un respect de l'esprit du jeu qui est plus élevé que chez les garçons. On le dit souvent, ça paraît être un peu une marotte maintenant, mais c'est la vérité. Et ça rend ce football-là très agréable, à la fois regardé, très clair, et en même temps à commenter, parce que peut-être le rythme est moins élevé encore aujourd'hui. Il y a encore des progrès à faire sur l'athlétisation, sur la vitesse, sur la puissance. On n'aura jamais un football féminin comme un football en Ligue des Champions. Et à la limite, tant mieux, parce qu'il laisse peut-être plus de place à la créativité, à l'inspiration, tout en étant accessible à tout le monde.
Et il n'y a plus de sincérité, d'honnêteté, il y a moins de chiquet.
Je le ressens
chez
comme
les
ça,
filles
ouais.
aussi.
Ah oui, je le ressens définitivement comme ça.
On n'a pas les filles qui se roulent par terre en hurlant de
mais
douleur.
Mais même le match France-Norvège qui était heurté pour un match joué par des femmes et rester de toute façon du début à la fin dans une grande sincérité, un grand respect de l'adversaire les unes pour les autres. Donc voilà, pour moi franchement c'est tout sauf un problème ou tout sauf une façon de dénigrer que de dire football féminin.
Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que je refuse la comparaison, qu'elle soit positive ou négative, parce que ça revient toujours à une chose, c'est-à-dire essentialiser les différences, et comme je travaille sur les stéréotypes, c'est impossible pour moi d'aller sur ce sujet-là. Le fait est que c'est vrai, pour l'instant il y a très peu de simulations. Je regardais hier les matchs encore, j'ai vu le Brésil face à l'Australie, il y a très peu de temps mort, ça joue beaucoup, etc. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces filles-là, elles jouent par passion, parce qu'on ne les paye pas, donc il n'y a que la passion qui
ou
reste,
peu.
Ou peu. Et donc, du coup, quand on joue par passion, bah, on aime forcément le jeu. On s'extrait, évidemment, de tous les enjeux financiers qui sont ceux des garçons aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ces comparaisons ni en faveur des femmes, ni en défaveur des femmes, parce que ça reste du football. Et vous l'avez dit très bien, c'est similaire sur plein d'aspects. Et voilà, c'est sur ça qu'on doit se centrer essentiellement.
Un commentaire qui fâche, vous l'avez sans doute vu passer. Ce n'est sans doute pas une opinion isolée, sinon j'en parlerai pas. Édito de Nice Matin, signé Thierry Prudhon, qui s'appelait « Aimer sans être aveugle ». Les femmes, écrivait-il, ne jouent pas à ce jour aussi bien que les hommes. Vouloir soutenir à tout prix qu'elles seraient leurs égales relève de la dernière stupidité. Pour de multiples raisons, un match de foot féminin ne génère ni la même intensité physique, ni la même qualité technique. L'écart va se resserrer, mais le fossé ne sera jamais entièrement comblé. Jean-François Pérez.
Bah, une femme ne court pas aussi vite qu'un homme, par exemple. Et alors, quoi ? C'est pas bien grave. C'est vrai que quand on voit un match de foot joué par des femmes, on a l'impression, et on me le demandait récemment, je disais, on dirait un peu un match d'hommes des années 60-70. Mais c'est normal, il n'y avait pas de foot féminin professionnel avant. C'est une discipline qui est en train de se construire, donc il est normal que la marge de progression technique, physique et tactique soit importante.
Le tennis a connu la même évolution d'ailleurs.
Oui, en sachant que les femmes ont eu le droit de jouer au football que depuis mars 70, donc c'était juste hier. Donc on est parti avec un siècle de retard, donc on va combler petit à petit les écarts. Néanmoins, concernant les aspects physiques, je pense qu'on est aussi très biaisé par nos filtres sociaux. J'entendais un commentateur la dernière fois dire mais alors elle court combien de kilomètres par match ? Et quand Jessica Wara lui répond factuellement que elle court entre 10 et 12 km comme les garçons. Effectivement, le gars s'est trouvé un peu idiot parce qu'on est là avec nos filtres sociaux à espérer qu'il y a des différences biologiques. Donc nécessairement, on voit des différences qui n'existent peut-être pas en réalité.
On parle quelques instants du jeu et des joueuses. Qui vous impressionne ? Qui vous a impressionné depuis le début du parcours des Bleus
Dans l'équipe de France ?
Compétition. Oui, en équipe de France.
Bah, il y en a beaucoup. En plus, je les connais très très bien. Donc, évidemment, je suis une fan inconditionnelle de Jenny Le Sommer et je pense qu'elle va faire encore des miracles pendant cette Coupe du Monde. Mais il y a aussi notre pépite Delphine Cascarino, Diani qui est absolument dingue. Ouais. On a Gauvin qui est décisive. Et puis, on a une défense du feu de Dieu, quoi. Je pense à Mbok qui est un rock derrière. Je pense à Amandine Henry qui va nous faire, je pense, beaucoup de bien au milieu de terrain. Donc, je pense du bien de toutes ces joueuses et j'espère qu'elles iront au bout.
Jean-François Pérez, un effet waouh pour une ou plusieurs joueuses de l'équipe de France que vous avez vues, vous avez dit
On commence à bien les connaître, alors la surprise n'est plus aussi immense qu'il y a quelques temps, mais c'est vrai que Diani a fait un match contre la Norvège qui était de très très haut niveau. Et puis moi j'ai toujours beaucoup aimé, même si c'est un petit peu l'une des doyennes en tout cas de l'équipe de France, Gaëtan Tinet pour son intelligence de jeu, pour sa simplicité, pour la vitesse qu'elle arrive à donner dans l'avant-dernière passe qu'elle donne, parce qu'elle est souvent dans ce rôle-là. Et c'est une équipe qui est chouette à voir, parce que non seulement elle arrive à créer devant avec des talents individuels et techniques de dribble très importants, mais en plus derrière, en effet, c'est très solide et c'est aussi beau à voir quand on aime le foot de voir une belle attaque, une belle défense. Et là, en l'occurrence, on a vraiment une belle défense.
Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Demain donc le match de la France contre le Nigeria à Rennes. Merci beaucoup Mélissa Plaza. Votre livre « Pas pour les filles » est toujours évidemment disponible.
Presque en rupture.
Presque en rupture. Merci à vous.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Boris Vian a eu le malheur et la chance de n'être jamais vieux. Le malheur l'a frappé, son cœur l'a lâché le 23 juin 59 dans un cinéma des Champs-Élysées il y a tout juste 60 ans. La chance, c'est de figurer pour la postérité en éternel jeune homme, génie méconnu de son vivant, mais l'écume des jours est depuis longtemps le grand classique des lecteurs adolescents et ses chansons, dont personne ne voulait à l'époque, continuent de courir et d'être découvertes par les jeunes générations, grâce à vous notamment. Bonjour Françoise Canetti.
Bonjour Patrick.
Et vous êtes la fille de Jacques Canetti, l'homme qui a persuadé Boris Vian de chanter ses propres chansons et qui l'a amené sur la scène de son cabaret Les Trois Baudets, où vous l'avez vu et entendu, petite fille. Vous avez repris la direction des productions Jacques Canetti, avec pas mal de Vian au catalogue, et vous produisez le prochain disque de Debout sur le Zinc, dont le chanteur est avec nous. Bonjour Simon Mimoune.
Bonjour.
Françoise Canetti, est-il besoin de rappeler à quel point Boris Vian a été un parolier exceptionnel, incroyablement doué et prolifique ?
Mais écoutez, c'est enfin, pour ses chansons, effectivement, il a écrit quelques 500 chansons. Il commence à s'intéresser véritablement à la chanson dans les années 53, en 1953, au moment où il va découvrir ce qui se passe au Théâtre des Trois Baudets et où sa pièce « Ciné Massacre » est reprise par Yves Robert et Boris Vian va venir extrêmement souvent dans ce théâtre et va véritablement avoir envie d'écrire des chansons. Et avec Jimmy Walter, qui est un formidable pianiste de jazz, il va écrire énormément de chansons et qu'il va vouloir faire chanter à d'autres gens.
Voilà, parce que on va écouter votre père, Jacques Canetti, qui le premier a découvert ces chansons de Vian un jour de 54, quand Vian vient le voir dans ses bureaux de la salle Pleyel.
Boris Vian me dit, patron, j'ai quelque chose à vous dire, je ne vous ai pas encore tout dit depuis qu'on se connaît, mais je fais des chansons. J'aimerais que vous me disiez si j'ai une chance de réussir avec mes chansons. C'était à midi, à 2h, j'étais chez lui. Et puis il me présente Jimmy Walter. Jimmy Walter, c'était son pianiste, son compositeur. Et Jimmy commence à jouer des chansons formidables, absolument formidables. 2h jusqu'à 7h, on a joué des musiques. Et je dis à Boris, mais c'est facile, vos chansons, tout le monde va se jeter dessus. Il me dit, pas du tout, détrompez-vous. Tout le monde se jette dessus, puis me laisse tomber aussitôt.
Tout le monde me laisse tomber. À ce moment-là, Roland Petit et Zizi Jeanmaire viennent de lui refuser les chansons qu'il leur a proposées. C'est donc Jacques Canetti qui le persuade de chanter lui-même sur la scène. Et bon, il faut le dire, c'est un désastre hein, au début, Françoise Canetti.
Mais non, c'est pas un désastre. Mais non.
Ah, c'est ce en que fait, raconte votre père.
Mais en fait, c'est pas un désastre. Tous les artistes qui sont passés au Théâtre des Trois Baudets, c'était un désastre au démarrage. Ouais. Parce que ce ne sont pas des exhibitionnistes. Quand Georges Brassens chante ses chansons au Baudet, ce n'est pas un interprète. Quand Brel chante ses chansons au Trois Baudets, ce n'est pas un interprète. Ouais. Boris Vian, c'est exactement pareil. Ce n'est pas un interprète, c'est quelqu'un de très pudique, pas du tout exhibitionniste, qui se retrouve lancé sur une scène. Devant 247 personnes qui le regardent absolument médusé, oui, et qui voient un personnage très mince, très long, très, très blême aussi.
Il y a quelques captations radio de Boris Vian sur scène, ça donne ceci.
On n'est pas là pour se faire engueuler. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe.
Voilà, interprétation, comment dire, minimaliste, distanciée.
Oui, minimaliste, distanciée.
Et malaise dans le public. Et pourtant, évidemment, ces chansons sont géniales. On en connaît quelques-unes. Une partie seulement, vous avez dit, 400, 500 chansons qu'il a laissées. Simon Mimoun, chanteur de Debout sur le Zinc, mais aussi auteur de chansons vous-même. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les chansons? Qu'est-ce qu'ils ont de les textes de Boris Vian?
Elles sont assez incroyables. En fait, elles tiennent à la personnalité de Boris Vian. En chantant ses chansons, on s'aperçoit qu'il n'est pas dans le déni de la mort. Donc, il y a quelque chose d'urgent. Et en même temps, il y a quelque chose de pas du tout, comment dire, il n'est pas passé du côté obscur. Il est dans l'amour de la vie complet. Il a envie de vivre énormément. Et quand on chante ses chansons, vous voyez, ça m'émeut rien que d'y penser. On est pris dedans.
Debout sur le Zinc, chante Vian, c'est un spectacle que vous avez créé il y a un an à Avignon.
Oui, avec mis en scène par Nicolas Carton, avec mes cinq compères. Et on est hyper fiers de ce spectacle, il est magnifique.
Et il a séduit Françoise Canetti, donc, pour la production d'un disque qui sortira à la rentrée. Mmh. Alors, on va en écouter un petit extrait. Il y a entre autres choses, la mise en musique d'un grand poème de Vian qui a été immortalisé par Pierre Brasseur.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si
alors c'est un texte merveilleux, évidemment, avec la voix de Brasseur, mais le résultat que vous avez contribué à produire, Simon Mimoun, est pas mal. Debout sur le Zinc, je voudrais pas crever.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à queue nue, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid, truffées de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins stop bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a de si...
Je voudrais pas crever par debout sur le zinc. Vous avez réussi à marier la légèreté. La légèreté, la fantaisie du propos et la gravité qu'il y a au fond du texte de Boris Vian.
Merci, oui, on a beaucoup travaillé sur ces textes. On les a acceptés d'ailleurs, contrairement aux autres, ces textes-là. Ils sont très agréables à mettre en musique.
Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous m'avez parlé d'inédit, François Scanetti, ou de quasi-inédit. Il y a un texte qui s'appelle « Vous mariez pas les filles », par exemple.
Alors, « Vous mariez pas les filles », Vous mariez pas les filles », c'est une adaptation que Debout sur le zinc a fait d'une chanson qui avait été créée par Michel Arnaud.
Ouais.
Et là, ici, vraiment, 60 ans, vraiment, Boris Vian comprend, 60 ans avant MeToo, avant Balance ton porc, ce qui va se passer avec les femmes. Et il est en train, il marque la différence entre la virilité et la vulgarité de certains hommes. Et il fait une chanson absolument formidable,
ouais,
qui est d'actualité. Et c'est vraiment la première fois qu'un groupe d'hommes chante cette chanson. Et c'est une chanson, mais vraiment percutante, hein, qui fait vraiment réfléchir.
Voilà, parce que Debout sur le zinc, c'est six hommes, musiciens, chanteurs, multi-instrumentistes,
oui,
d'ailleurs. Hein, Simon,
oui,
Humoune,
oui,
c'est ça.
Voilà. On joue tous d'un ou deux instruments minimum. Oui.
Bon, oui. Donc, vous mariez pas les filles. C'est quoi? Alors, c'est l'inverse de Fais-moi mal, Johnny, parce qu'on on a dit à Vian, enfin, on l'a dit après coup, évidemment, que c'était un peu dominateur et que c'était pas très politiquement correct.
Oui, mais enfin, ça, c'était les débuts du rock.
Fais-moi mal,
Johnny. Et donc Boris s'amusait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Vraiment, il s'amusait. Et avec Magali Noël, c'était une telle complicité que tout était possible.
Il n'y avait pas une once de misogynie chez cet homme. Ouais. En fait. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il y a toujours des traces de misogynie chez les chanteurs de cette époque-là. Et là, il n'y en a pas une. J'en ai pas trouvé. C'est incroyable. Il parle du désir féminin, il parle aussi du désir masculin réfréné. Il y a vraiment plein de choses dedans.
Oui, d'ailleurs, Debout sur le zinc, vous avez pris une chanson qui est vraiment inédite, c'est Il est tard.
Il est tard. Ouais.
Où Boris Vian parle du désir masculin qui est réfréné.
Ouais,
totalement réfréné, totalement maîtrisé. Et ça, c'est Boris Vian.
Et puis, François Scanetti, il faut rappeler l'apparition il y a quelques mois d'un énorme coffret Vian, 100 chansons avec 6 vinyles, 4 CD, des inédits. On entend entre autres ceci.
Monsieur le Président, voilà, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être.
Chasse à l'amour, chasse à la vie, nous faisons tout autant que nous sommes.
Il jouait
un rock très doux.
Quand je rentre chez moi le soir, je me lave les pieds sans retard et j'enfile mon pyjama rayé.
Alors on cède, car il
Jacques Michelin et juste avant Magali Noël et Serge Reggiani, et on n'a plus beaucoup de temps. Et puis pour la vinaigrette et la tourniquette, merci beaucoup François Scanetti. Donc le coffret est toujours là, évidemment. Vian et Debout sur le zinc, on accueillera avec beaucoup d'intérêt et de plaisir votre album à la rentrée. Puis vous êtes en tournée, on trouvera toutes les dates sur le site. Merci beaucoup. Simon Humoune, merci François Scanetti.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Heures, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Voici à présent l'histoire d'un type qui tombe amoureux de son blouson. Il a quitté sa vie pour s'offrir le vêtement de ses rêves, un blouson andin et à franges, à qui il se met à parler puisqu'il n'a plus d'autre horizon et avec qui il échafaude un projet, être le seul blouson et le seul type à porter blouson, ce type qui part loin, loin dans la montagne et dans sa tête, c'est vous. Bonjour Jean Dujardin.
Bonjour.
Et celui qui a goupillé ce film dingue et gonflé, comme souvent, c'est vous. Bonjour Quentin Dupieux.
Salut, salut.
Jean Dujardin, c'est qui ce Georges? Vous avez compris qui il était, ce qu'il avait conduit là, et d'abord à tirer la chasse sur son veston dans des toilettes d'autoroute.
Écoutez, alors, j'en sais rien, c'est qui Georges? Je crois que Georges, c'est un peu moi, c'est un peu vous, ça peut être un peu n'importe qui. C'est un mec qui est un peu au bout de quelque chose. Voilà, on le prend là où il a passé déjà la ligne de crête. Hein, ouais. Il est plus en glissade. Il est paumé, il a décidé de se paumer un petit peu plus. Et puis pourquoi pas se faire plaisir avec le blouson de ses rêves.
On sait qu'il a une femme qui ne veut plus lui parler. Elle a bloqué son compte en banque.
Ouais.
Donc il a largué quelque chose.
Il sort de la vie. Il se désociabilise et il va s'enfermer. Puis il va se faire plaisir. Il va vivre pour lui véritablement. Peut-être qu'il va s'offrir la grande semaine de sa vie.
Ouais. Se faire plaisir et vivre pour lui, on peut se dire que c'est un cousin de Brice, de Nice, sans les mimiques.
C'est-à-dire que c'est un personnage effectivement un peu en circuit fermé, oui, effectivement.
Quentin Dupieux, il est barré, ce Georges, est de plus en plus barré, mais il n'est pas grotesque, sa folie est ancrée dans le réel.
Oui, c'était l'angle. On voulait parler d'un fou, mais au présent et dans un monde concret. Voilà, on est moins dans un délire que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a l'habitude tous les deux. Jean, il a fait plus de films que moi, et il a pas fait que ça. Il a fait des films sérieux, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de films délirants, on va dire, voilà, sur lesquels on met toujours les mêmes mots et les mêmes étiquettes. Là, l'envie c'était de faire en fait de faire un film sur un fou, mais dans le réalisme, voilà, sans perdre la comédie, parce qu'on a quand même cherché à faire un film divertissant et drôle, et on a la preuve qu'il l'est quand on le voit en projection. Mais ça reste, on est au niveau du sol, quoi. On est chez nous, on est en France, dans un monde qui existe. En fait, on n'est pas sur Mars, quoi.
Avec la réplique du film, le gimmick, qui est une formule qu'on pourrait entendre dans la vie de tous les jours. Style de malade.
C'est ça.
Ça vous fait rire encore.
Oui, moi, comme vous le dites, là, j'aime bien. Allez-y, encore.
Style de malade.
Style de malade. J'adore.
Oui.
Style de malade. Ben voilà, mais c'est un style de malade. Oui. Elle est très agréable à dire.
Mais c'est drôle, c'est que moi, quand j'écris ça, j'ai même pas idée qu'on va le retenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est la phrase que doit dire le mec devant son miroir. Il y avait même pas de quête du bon mot, quoi.
Oui, il se regarde tout le temps. Alors, parce que j'ai dit folie, mais on peut préciser. Bon, il est névrosé, évidemment, très autocentré, mégalomane, à cause de son projet fou, et paranoïaque, c'est-à-dire que Georges pense que les gens ne parlent que de lui et de sa veste. Extrait.
Vous parlez de mon blouson? Là, vous êtes en train de parler de mon blouson, là.
Non.
Ok, pardon.
Pourquoi on parlerait de ton blouson?
Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon.
Ah, vraiment?
Oui.
Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens?
Je vois, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
T'es pas du coin, toi, hein?
Je viens d'arriver, là.
Mais il a peut-être pas envie qu'on le tutoie direct comme ça.
Ça va, tout va bien, c'est bon, c'est cool.
Extrait du Dain avec Jean Dujardin, Adèle Haenel et Marie Bunel. C'est ce qu'on appelle la paranoïa de la célébrité, apanage, vous le savez, des acteurs et des gens connus, Jean Dujardin.
De quoi par rapport
à la paranoïa de la célébrité, quand on pense que les gens autour de vous ne parlent que de vous.
Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, effectivement, quand les gens regardent le portable, on se dit, je suis sûr qu'il est en train de me prendre en photo. Alors ça arrive souvent aussi qu'on vous prenne en photo à votre insu. Mais parfois, c'est « Ah non, je suis désolé, je regardais mes... »
Mais là, c'est la... Pardon, je vous coupe, mais c'est l'inverse, c'est la paranoïa de l'anonymat, en fait, pour Georges.
Oui, en l'occurrence, oui.
On le regarde tellement pas qu'il en devient paranoïaque, quoi.
Oui, mais il espère.
Il espère.
Il espère que les gens ne regardent et n'admirent que son magnifique blouson en daim qu'il a payé
cher.
À prix d'or. Ouais. Jean Dujardin, Quentin Dupieux, on vous retrouve dans un instant.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
avec le réalisateur Quentin Dupieux et Jean Dujardin à l'affiche du film Le Dain mercredi prochain. Quentin Dupieux, j'ai vu dans vos interviews que vous dites il n'y a pas de second degré dans mon film, mais vous avez inventé un personnage quand même qui se fait passer pour un cinéaste dont les producteurs sont aux abonnés absents. Je me demande s'il n'y a pas un message là-dedans. Et pour ce film, c'est vous qui faites le cadre, c'est vous qui tenez la caméra, comme Georges avec son caméscope, et c'est vous qui faites le montage, comme Denise, Adèle Haenel.
Oui, il y a un peu de moi là-dedans, mais après, je transforme ce que je connais en film. C'est-à-dire que moi, j'ai une vie normale, je suis pas fou comme ce pauvre Georges. En fait, il y a des éléments que je maîtrise. Effectivement, je trouve ça rigolo. C'est un bon personnage, une fille qui monte des images dans un bar à la montagne, qui a envie d'être monteuse, et ce mec à qui on donne un caméscope et qui filme pour la première fois de sa vie à 45 ans.
Comme un singe,
c'est aussi qui découvre ça en fait, parce que on me dit souvent c'est un film sur le cinéma, mais en fait pas du tout. C'est avant tout c'est un mec qui découvre en fait ce rapport à l'image, et il en fait un truc complètement. Il passe sa vie à filmer les franges de son blouson. Enfin, c'est pas un cinéaste, quoi. C'est un mec qui découvre. C'est comme un oncle. On a tous un oncle à qui on donnerait une caméra et qui filmerait ses chaussures, quoi.
Donc, vous me confirmez que le cinéma n'est pas un métier d'imposteur, comme on a l'impression de le voir dans le film. Avec le type qui pique les métiers du cinéma dans une librairie pour apprendre à.
On peut creuser. Il y a beaucoup d'imposteurs, ça c'est certain. N'importe qui peut décréter je suis réalisateur et puis s'asseoir dans une chaise et dire action coupée, j'aime pas. Il y en a qui pensent que c'est ça, réalisateur. Il y en a plein qui le font comme ça, d'ailleurs. Assis devant une télé, quoi. Ça existe. Mais bon, c'est un autre sujet, quoi. J'ai pas envie de...
Non, ça m'intéresse. Jean, non, là-dessus. Bon, Quentin Dupieux, vous ne faites pas la musique du film.
Il y en a marre de ma musique.
Vous êtes musicien comme Mister Oiseau, mais vous vous servez d'une BO géniale qui accompagne beaucoup du film, qui est tiré d'une série télé des années 70... Hawaii Police d'État, on écoute, ça donne l'ambiance du film.
On est aussi de l'écran un peu.
Ouais. C'était là depuis le début ce truc-là, cette vibe.
Ça vous a accompagné dès l'écriture du film, Quentin Dupieux ?
Non, c'est dès les premiers pas du montage, j'étais à la recherche en fait d'un... Comment on appelle ça ? C'est pas un jingle, parce que c'est pas ça. Dans un film, on n'appelle pas ça un jingle, mais...
Un gimmick
non plus, mais un rappel. Non, c'est pas un thème non plus, parce qu'il n'y a pas de notes. Non, on trouvera pas. Non, mais en fait,
une ponctuation, ça.
Une ponctuation, voilà. Et en fait, c'est vrai que ce truc-là, il traînait dans mon ordinateur. Et puis finalement, après avoir essayé plusieurs trucs, c'est celui-là qui a gagné. En fait, c'est celui-là qui imprégnait le film au mieux. Et en fait, c'est devenu hyper addictif pour moi. Ces trois petites notes qu'on entend au début, là, hein, parce que c'est ça que j'ai mis en boucle.
Ouais.
Après, effectivement, il y a un moment où je déroule le morceau en entier, mais j'utilise les deux coups de trompette qu'on a entendus dans l'intro. Je l'utilise 10 fois dans le film. Ça nous a d'ailleurs coûté une fortune parce que les ayants droit étaient.
Ah oui.
Ouais, ça paraît con hein, parce que c'est un tout petit bout de musique, mais en fait ça a vraiment conditionné le montage et c'est un peu le son qui nous maintient en tension, quoi, j'ai l'impression. Ouais.
Voilà, on n'a pas envie de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est un film qui fonctionne sur l'effet de surprise. Donc, on va pas dire jusqu'où va votre folie, Georges Jean Dujardin. Hein, mm-hmm. Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord, bien sûr.
On marche comme ça. Mm-hmm. On reste dans l'absurde, univers absurde. Qui...
Oui, allez voir le film et puis après, on en reparle. Voilà. Ça, c'est la meilleure des promos.
Bon, très bien. Le Dain qui a été présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs, qui depuis fait l'objet de multiples jeux de mots un peu partout. Dans du jardin, il y a Dain. Dans Dain, il y a Dain. Votre jeu de mots préféré ?
Bah, on en parlait là, hors antenne. C'est quoi ? C'est malade manteau.
Malade manteau, oui.
Malade manteau. Mmh.
Malade manteau, c'est super.
Avec le manteau, avec le blouson comme manteau.
Ouais, ça marche très très bien.
Évidemment. Un mot, Jean Dujardin, vous allez être dans quelques mois sur les écrans le colonel Picard, personnage très emblématique de l'affaire Dreyfus. C'est lui qui rend justice à Dreyfus, en quelque sorte, devant la caméra de Roman Polanski. Mmh. Rôle majeur.
Oui, j'en sors depuis. Ouais, quoi, je me suis rasé là il y a un mois et demi. C'était un long tournage, très bon tournage. avec un grand metteur en scène assez obsessionnel aussi. Et je n'ai rien vu, je n'en sais rien. J'ai traversé ça avec mes camarades de la Comédie Française, beaucoup d'acteurs, de brillants acteurs. Voilà, quelque chose de très nouveau encore pour moi, quelque chose que je voulais travailler encore. Des colères froides et puis surtout c'est qu'on est vraiment pour le coup là au service de l'histoire, c'est l'histoire qui passe devant, et quelle histoire,
une très grande histoire. Le Dain, film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, mercredi prochain sur les écrans. Merci messieurs d'être venus nous en parler.
Merci beaucoup.
9h-10h, c'est arrivé demain
avec Patrick Cohen sur Europe 1.